l'accès à l'éducation, la gratuité, la généralité, notamment aider les zones rurales, y compris les efforts de plus en plus en matière d'inclusion des enfants en situation de handicap, ainsi que le milieu rural et l'éducation des filles. De même, vous l'avez dit dans vos propos liminaires, le taux d'alphabétisation a atteint 70% et les statistiques du bureau de l'UNESCO en 2018 faisaient déjà état de 76,6% de l'alphabétisation au niveau des adultes et encore plus au niveau des jeunes âgés de 15 à 24 ans. Mais comme vous le savez, ce dialogue a pour objet, c'est davantage prendre du recul, voir les difficultés, voir comment on peut relever ces défis. D'ailleurs, vous faites mention de ces défis en ce qui concerne l'éducation en général. Donc, est-ce que vous pouvez nous informer sur l'existence d'une législation qui garantit l'accès, l'obligation et la gratuité. Donc, c'est vraiment l'aspect légal des choses. Ainsi que les mesures prises pour améliorer l'accès à l'éducation pré-primaire ou ce qu'on appelle l'éducation préscolaire, notamment pour les enfants ruraux et économiquement et socialement vulnérables. D'améliorer l'infrastructure, l'environnement d'apprentissage et la formation des enseignants du pré-primaire, parce que comme vous l'avez considéré dans votre rapport, ce sont des enjeux pour l'éducation pré-primaire. Quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir la gratuité à tous les niveaux? Et là, je ne pense pas à la gratuité pécuniaire, mais il y a ce qu'on appelle certains coûts cachés, notamment les fournitures scolaires, les tenues, etc. Donc, qui sont comptés également en tant que frais et qui peuvent impacter le budget des familles vulnérables. Qu'est-ce qui est envisagé et déjà entrepris pour éradiquer les disparités d'accès à l'éducation entre les différentes régions du pays, pour améliorer la qualité de l'éducation et réduire le ratio élèves-enseignants pour lutter contre la surpopulation et donc espérer avoir une éducation de qualité? Qu'est-ce qui est fait pour améliorer, pour former et mettre à jour les compétences des enseignants? Et est-ce qu'il y a des évaluations de temps en temps de la qualité de l'éducation? Et qu'est-ce qui est fait une fois que ces évaluations sont faites? Concernant les redoublements et les abandons, même dans votre rapport, vous avez souligné le problème lié au redoublement, à l'abandon, ainsi que les efforts que vous avez entrepris pour y lutter. Mais on sait que les principales causes, c'est davantage des causes économiques, sociales, culturelles, structurelles, y compris la surcharge des classes, le manque des ressources pédagogiques, ainsi que des contraintes liées à la guerre et au déplacement des populations. Donc, quelles sont les mesures prises pour s'attaquer à ces problèmes, réduire le taux de redoublement et surtout d'abandon scolaire, parce que de plus en plus on remarque que l'abandon se rencontre notamment au niveau du secondaire. Et auprès des filles, qu'est-ce qui est vraiment fait pour maintenir le plus possible les filles dans le système scolaire, lutter contre ce qui a été soulevé par mon collègue, les mariages, les grossesses précoces, etc., ainsi que les distances. Beaucoup de filles sont retirées des écoles, il y a des distances, il y a la crainte des violences sexuelles sur le parcours de l'école, etc. Le service national, vous l'avez dit, beaucoup d'enfants, filles, garçons, sont redevables à ce service national qui leur avait permis d'aller de l'avant. Mais ce qui est constaté, c'est que beaucoup d'enfants, des lycéens, filles comme garçons, quelquefois abandonnent l'école pour ne pas avoir à servir dans ce service national et surtout rejoindre le centre d'entraînement militaire de Sawa. Donc, est-ce que vous pouvez nous informer si le gouvernement, l'État, a envisagé de revoir la pratique du service national obligatoire, aussi bien militaire que civil, pour éviter l'abandon des enfants? En matière d'éducation aux droits de l'homme, je n'ai pas trouvé mention sur la question dans le rapport de l'État parti. Et donc, est-ce que vous pouvez nous informer qu'est-ce qui est entrepris pour introduire l'éducation aux droits de l'homme dans les curricula. Est-ce que ça existe déjà ou peut-être vous ne nous avez pas fait mention? Et donc, qu'est-ce qui est prévu en la matière? Les loisirs, les jeux, activités culturelles, vous nous en avez parlé dans votre discours liminaire, ainsi que dans le paragraphe 185 de votre rapport. Ma question est très ciblée. Qu'est-ce qui est entrepris pour qu'il y ait vraiment un bénéfice global, notamment pour les enfants en situation de handicap, qu'ils puissent avoir accès aux activités culturelles, loisirs et autres, les enfants vulnérables, économiquement modestes et ainsi de suite. Et je vous remercie pour toutes vos réponses.
Mikiko Otani.
Thank you, Chair. So,
je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais donc ouvrir le dernier groupe de questions, mesures de protection spéciale. D'abord, le travail.